France Musique. Musicopolis. My Fair Lady.
It's the opening night of the film My Fair Lady.
C'est la première ce soir de My Fair Lady, annonce le présentateur. Il s'agit là d'une soirée tout ce qu'il y a de glamour. Bien sûr, le producteur est là, Jack Warner, de nombreux invités prestigieux, des célébrités du cinéma, des gens du monde, et naturellement les deux acteurs principaux. D'abord, cette actrice unique, Audrey Hepburn, qui incarne Eliza Doolittle.
Rex Harrison, Professor Higgins, of course.
Rex Harrison, le professeur Higgins, bien sûr.
Stanley Holloway and Cecil Beaton. What lucky people.
Stanley Holloway, Cecil Beaton, tous ces chanceux sont là pour voir My Fair Lady. Lorsque My Fair Lady, le film de George Cukor, sort en 1964, le sujet est connu depuis longtemps et la musique aussi est déjà dans bien des oreilles. C'est ce que vous raconte Musicopolis aujourd'hui. Nous devons d'abord remonter à 1912. George Bernard Shaw, dramaturge irlandais engagé de 56 ans, écrit une pièce qu'il intitule « Pygmalion », inspirée par un personnage de la mythologie grecque. Dans la version de Shaw, un phonéticien anglais, le professeur Higgins, rencontre devant Covent Garden une petite fleuriste à l'accent cockney, Eliza Doolittle. Higgins parie avec son ami le colonel Pickering qu'en 6 mois, il est capable de changer Eliza en duchesse en transformant son accent et son langage. La thèse que George Bernard Shaw veut mettre en valeur dans son Pygmalion est d'abord que l'accent est un marqueur des classes sociales. Mais aussi, pourquoi les Anglais n'apprennent-ils pas à leurs enfants à parler ?
Why can't the English teach their children how to speak? This verbal class distinction by now should be antique. If you spoke as she does, sir, instead of the way you do, why, you might be selling flowers too.
Beg your pardon?
An Englishman's way of speaking absolutely classifies him. The moment he talks, he makes some other Englishman despise him. One common language I'm afraid we'll never get. Oh, why can't the English learn to set a good example to people whose English is painful to your ears? The Scotch and the Irish leave you close to tears. There even are places where English completely disappears. Well, in America, they haven't used it for years. Why can't the English teach their children how to speak? Norwegians learn Norwegian. The Greeks are taught their Greek. In France, every Frenchman knows his language from A to Z. The French don't care what they do, actually, as long as they pronounce it properly. Arabians learn Arabian with the speed of summer lightning. The Hebrews learn it backwards, which is absolutely frightening. Use proper English, you're regarded as a freak. Why can't the English? Why can't the English learn to speak?
D'autre part, dans son Pygmalion, Shaw veut montrer qu'il ne sert à rien de changer son accent ni même d'éduquer une jeune fille pour lui donner des manières de princesse si ensuite elle reste pauvre. Elle ne sera plus à l'aise nulle part.
Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold, Mike, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Sitting absolutely still, I would never budge till spring crept out from the windowsill.
Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be.
Who takes good care of me?
À la fin de Pygmalion, la pièce de George Bernard Shaw, Eliza Doolittle quitte la maison de Higgins pour épouser un jeune homme de la bonne société londonienne rencontré aux courses d'Ascot. Pour Shaw, en aucun cas, Eliza ne devait tomber amoureuse de Higgins. Elle devait au contraire conquérir son indépendance. Imaginer un mariage entre les deux serait pour lui une tragédie révoltante. Mais en fait, l'idée de Shaw est contraire à la pensée dominante. Les deux personnages principaux d'une pièce devraient se marier ensemble. C'est pourquoi, lorsqu'il écrit un scénario pour un film tiré de son Pygmalion en 1935, Shaw prend soin d'interdire par contrat qu'il y ait la moindre relation amoureuse entre Higgins et Eliza. Le premier film sur le sujet sort en 1935 en Allemagne, suivi d'un autre aux Pays-Bas en 1937 et d'un troisième au Royaume-Uni en 1938. Les réalisateurs ont ignoré leurs obligations contractuelles. Ils ont laissé supposer un dénouement romantique. Pourtant, la manière dont Higgins se présente au début est tout à fait claire. Je suis un homme ordinaire qui ne désire rien de plus qu'une possibilité ordinaire de vivre exactement comme il aime et faire exactement ce qu'il veut. Je suis un homme dans la moyenne, sans caprice excentrique, qui aime vivre sa vie sans querelle, en faisant ce qu'il pense est le mieux pour lui. Voilà. Un homme ordinaire. Mais faites entrer une femme dans votre vie et votre sérénité est terminée. Elle va redécorer votre maison de la cave au grenier, puis elle va s'amuser avec passion à vous transformer.
Let a woman in your life,
etc., etc.
And you're up against a wall. Make a plan and you will find she has something else in mind. And so rather than do either, you do something else that neither likes at all. You want to talk of Keats or Milton. She only wants to talk of love. You go to see a play or ballet and spend it searching for her glove. Let a woman in your life and you invite eternal strife. Let them buy their wedding bands for those anxious little hands. I'd be equally as willing for a dentist to be drilling than to ever let a woman in my life.
Voilà, le personnage de Higgins bien campé. Un irréductible misogyne. Ce qui n'était pas le cas de Shaw, qui au contraire était féministe et engagée avec son épouse pour le droit de vote des femmes. Mais poursuivons les avatars de la pièce. Après trois films qui trahissent sa pensée, l'auteur se sent obligé dans les éditions de 1939 et 41 de préciser encore ce qu'il avait dit dans la première édition, à savoir qu'Eliza Doolittle n'était pas amoureuse de Higgins et qu'elle ne l'épousait pas à la fin. En tout cas, une partie de la pièce concerne le travail que fait Eliza sous la direction de Higgins pour réussir à parler l'anglais de la bonne société. Mais elle continue à avoir son accent cockney, épouvantable selon Higgins.
All right, Eliza, say it again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Il va lui falloir travailler beaucoup pour que le déclic se fasse et qu'elle réussisse enfin à prononcer comme il veut.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
What was that?
The rain in Spain stays mainly in the plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain.
Hereford and Hampshire.
Hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come.
Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that blasted plain?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Pendant toute sa vie, Georges Bernard Shaw a refusé qu'on mette de la musique sur sa pièce Pygmalion. C'était pour lui « crazy nonsense », un non-sens fou. Cependant, après sa mort en 1950, ses légataires consentent à laisser les droits pour une adaptation en comédie musicale. Il en est question dès 1951, le célèbre tandem Rodgers et Hammerstein étant très intéressés. Il lâche l'affaire très vite, mais la Guilde du Théâtre, société théâtrale new-yorkaise qui promeut des pièces sur Broadway, s'y intéresse à son tour et commence à proposer des noms de compositeurs. Irving Berlin, Cole Porter, Frank Loesser, Giancarlo Menotti, Harold Holm. Les premiers ayant refusé, on propose au tandem Lerner et Love, qui ont déjà écrit ensemble 4 shows pour Broadway. Ils acceptent. En 1952, les choses avancent bien, on songe déjà au casting. Le New York Times annonce qu'il semble bien que Alan J. Lerner et Frederick Love vont se charger de mettre la pièce en musique et que la production commencera dès qu'ils auront taquiné la muse avec succès.
The Lord above gave man an arm of iron so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you'll never work. The Lord above made liquor for temptation, to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll give right in.
With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you'll give right in.
Oh, you can walk the straight and narrow, but with a little bit of luck, you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked.
Les choses ont l'air d'être bien parties pour la mise en musique de Pygmalion. Mais soudain, rien ne va plus. Il semble qu'Alan J. Lerner, qui doit faire le livret, se retrouve avec des problèmes de construction qu'il n'arrive pas à résoudre. Abandon. Puis retour en grâce de l'idée et reprise du travail en 1954. Tout le monde s'agite, on cherche le bon casting, puis celui qui fera les décors, les costumes, la direction musicale, etc., etc. Dès que le nom de la jeune Julie Andrews est prononcé pour incarner Eliza Doolittle, elle fait l'unanimité. Elle est anglaise, comme le personnage, elle a 19 ans, l'âge du rôle, elle est excellente actrice, elle a une voix délicieuse.
Bed, bed, I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting.
À côté de Julie Andrews, on choisit Rex Harrison, un Anglais lui aussi. Il a le physique et l'âge du rôle, lui aussi. Ce côté flegmatique, typiquement britannique, pas vraiment un chanteur. Raison pour laquelle on entend dans ses interventions beaucoup de parler-chanter.
Damn, damn. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. She whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again. And yet, I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. Marry Freddie. What an infantile idea. What a heartless, wicked, brainless thing to do. But she'll regret it. She'll regret it. It's doomed before they even take the vow. I can see her now, Mrs. Freddie Eynsford Hill, in a wretched little flat above a store. I can see her now, not a penny in the till and a bill collector beating at the door. She'll try to teach the things I taught her and end up selling flowers instead. Begging for her bread and water while her husband has his breakfast in bed.
Les répétitions de la nouvelle comédie musicale commencent début janvier 1956, après quelques semaines à Philadelphie comme tour de chauffe. La première new-yorkaise a lieu le 15 mars. La pièce ne s'appelle plus Pygmalion, mais My Fair Lady. C'est un immense succès sur Broadway. My Fair Lady va rester à l'affiche jusqu'au 29 septembre 1962, presque 7 ans. 2717 représentations et 6 Tony Awards en 1957. Le disque se classait numéro 1 des ventes d'albums dès 1956. En 1959, on atteignait la meilleure recette de tous les temps, avec un bénéfice de 10 millions de dollars. Dans ces conditions, on imagine très bien les rêves des producteurs de Hollywood. C'est Jack Warner qui achète les droits sur la comédie musicale pour 5,5 millions de dollars, du jamais vu.
Tonight, old man, you did it. You did it. You did it. You said that you would do it, and indeed you did. I thought that you would rue it. I doubted you'd do it. But now I must admit it, that succeed you did. You should get a medal or be even made a knight.
No, it was nothing. Really nothing.
All alone you hurdle every obstacle in sight.
Now wait, now wait. Give credit where it's due. A lot of the glory goes to you.
But you're the one who did it, who did it, who did it. As sturdy as Gibraltar, not a second did you falter. There's no doubt about it. You did it.
Une fois les droits de My Fair Lady achetés, il faut songer à qui va réaliser le film. George Cukor est choisi. Pour les costumes, ce sera Cecil Beaton, spécialiste des costumes d'époque. Puis se pose à nouveau le problème du casting. On envisage bien sûr Julie Andrews, qui avait si bien réussi à Broadway. Mais elle n'a pas encore commencé sa carrière cinématographique. Elle n'est pas connue du grand public. Warner n'en veut donc pas. Et pourquoi pas Audrey Hepburn? Certes, elle est un peu âgée pour le rôle. Elle a 36 ans et non pas 20. Et en plus, elle ne chante pas. Qu'à cela ne tienne. Elle prendra des leçons pour pouvoir au moins chanter sur le plateau et elle sera doublée à l'écran. Sauf pour une chanson dans laquelle Eliza est tellement fâchée avec Higgins qu'elle force sa voix et que la précision du chant n'a plus d'importance. Sa doublure chant Marnie Nixon se chargera seulement des passages plus mélodiques.
Just you wait in me, Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broke and all have money. Will I help you, damn be funny? Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And you screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater. Ha ha, Henry Higgins, just you wait. Ooh, Henry Higgins, just you wait until we're swimming in the sea. Ooh, Henry Higgins, and you get a cramp a little ways from me. When you yell you're gonna drown, or get dressed and go to town. Ho ho ho, Henry Higgins, ho ho ho, Henry Higgins, just you wait.
Why, and I, or be famous, or be proper and prim, go to St. James, so often I will call it St. Jim. One evening the king will say, oh, Liza, old thing, I want all of England your praises to sing.
La production du film My Fair Lady n'a reculé devant rien. À sa sortie en 1964, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Les décors et les costumes sont somptueux. La musique est gaie, entraînante, mélodieuse. Les acteurs sont excellents. 12 nominations aux Oscars l'année suivante et 8 récompenses, dont meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur costume, meilleur acteur pour Rex Harrison. Audrey Hepburn n'aura pas la statuette qui va cette année-là à Julie Andrews pour Mary Poppins. Juste retour.
Where the devil are my slippers?
Mais où sont mes pantoufles ? Demande Henry Higgins en voyant qu'Eliza est revenue. Une phrase qui a choqué les participants du Masque et la Plume du 10 janvier 65, notamment Georges Benayoun.
L'opérette se termine, comme le film, se termine par une soumission totale de cette femme à l'homme. Ça se termine par une espèce de rituel, elle lui apporte ses pantoufles.
Georges Benayoun, dans Le Masque et la Plume, estime que My Fair Lady représente l'Angleterre vue par les États-Unis. Un pays où les femmes dominent. Et donc, le film met en scène, comme le dit Jean-Louis Borry, la revanche de l'homme sur la femme. Ceci dit, en fait, on ne sait pas ce qui se passe après le clap de fin, si elle lui apportera vraiment ses pantoufles ou si elle le transformera pour en faire un homme à sa convenance.
Thank you.
La fin de My Fair Lady, musique de Frédéric Loewe, paroles de Alan J. Lerner, l'orchestre de la Warner dirigé par André Prévin, enregistrement en avril 1964. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Cédric Chatelus pour le mixage, Élise Kravets pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.